Grand Angle.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grand Angle. Nouvelle escalade majeure au Moyen-Orient. Les États-Unis et Israël ont mené ce samedi une série de frappes contre l'Iran. Une opération baptisée « Fureur épique » par Washington. Téhéran a riposté par des salves de missiles dans la région avec des explosions signalées jusque dans plusieurs capitales du Golfe et des fermetures d'espaces aériens annoncées par plusieurs pays. Au cœur de cette séquence, le risque d'un embrasement régional est désormais ouvertement posé. Pour en parler avec nous, Jean-Pierre Perrin, écrivain, grand reporter et spécialiste du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de l'Iran. Merci de répondre à notre invitation.
Merci à vous.
Alors, Jean-Pierre Perrin, au-delà du discours sur des menaces imminentes, que cherche Washington et Tel Aviv ?
Clairement, maintenant, on est dans un scénario qui peut inclure un changement de régime. Ce n'est peut-être pas encore très évident de la part de Washington, cela l'est en revanche de la part d'Israël. Un changement de régime, et si l'information est confirmée, on peut le voir avec l'assassinat du chef de l'institution judiciaire, qui est un religieux, Mohsen Essaji, qui a été ou qui aurait été assassiné par des hommes armés. Alors, ce n'est pas une cible militaire, c'est une cible civile, même si c'est un des piliers du régime, notamment parce qu'il est l'instrument de la répression du régime, et donc il compte énormément pour le régime iranien. Mais on voit que s'il n'y a pas seulement des cibles militaires, mais également des cibles civiles, eh bien ça signifierait qu'il y a une volonté de changer le régime. J'ajoute que c'était l'un des hommes les plus impopulaires d'Iran, parce qu'il est donc celui qui organise la répression, y compris les condamnations à mort, et donc tous ceux qui ont eu à souffrir de la répression du régime, évidemment, vont s'en féliciter.
Alors, est-ce qu'on peut dire que l'excuse, entre guillemets, du nucléaire, ce n'était vraiment qu'une excuse pour, justement, accélérer ce changement de régime ?
Je crois que l'équation était simple, telle qu'elle a été formulée par Donald Trump, c'est un deal, donc un accord, ou la guerre. Il avait dit avec une formule aussi réductrice que celle-ci, donc le deal, il n'a pas eu lieu, donc c'est l'option la guerrière qui prévaut actuellement. Là-dessus, Trump a été net, il a semblé tergiverser effectivement, mais il exigeait ni plus ni moins qu'une capitulation de l'Iran. Et cette capitulation, le régime n'était pas prêt à lui donner. Donc, plutôt la guerre que la capitulation, c'est en cette formule également que l'on peut résumer la volonté du régime, la politique du régime vis-à-vis des États-Unis.
La riposte par missile dans la région ouvre-t-elle une logique de représailles en chaîne, notamment contre des bases et intérêts américains, ou Téhéran garde-t-il une marge pour éviter une guerre longue ?
Alors, on va le voir si jamais les Iraniens s'en prennent aux porte-avions américains. Vous savez qu'il y a deux porte-avions déployés, l'un dans le Golfe Persique, l'un en Méditerranée. Alors, notamment un phénoménal porte-avions, l'Abraham Lincoln. Alors, les Iraniens ont les moyens d'attaquer. Je ne dis pas qu'ils vont réussir leur frappe. Ça, c'est un autre problème. Ça dépendra des capacités de défense du porte-avions et des bateaux qui l'environnent. Donc, s'ils s'attaquent avec leurs missiles balistiques, mais aussi leurs missiles supersoniques, parce qu'ils en ont, aux porte-avions américains, alors là, évidemment, on s'engagera dans une véritable guerre, là où tout est à craindre. Pour le moment, on ne sait pas combien de temps l'opération américaine va durer. On peut présumer qu'elle sera longue. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute cette armada, comme dit Trump, déployée au large des côtes iraniennes, et dans le Golfe Persique et au-delà. Et donc, cette armada, elle est considérable. Et quand on a une armada aussi importante que celle-ci, cela sous-entend en stratégie militaire que les opérations vont durer longtemps. Combien ? Ça, personne ne peut le dire. On n'est pas dans la tête ni de l'état-major américain, ni dans la tête de Donald Trump, ni dans celle de Benjamin Netanyahou.
Alors, on l'a vu depuis les premières frappes, les choses s'enchaînent assez rapidement. Fermeture d'espaces aériens, alerte de sécurité, tensions dans le Golfe. Est-on déjà dans une régionalisation de facto ? Et quels États risquent d'être entraînés malgré eux ?
Ah bien, tous les États du Golfe. Tous les États des Golfes risquent d'être entraînés de facto dans cette guerre qui prend donc une dimension régionale, puisque l'Iran a frappé une base américaine à Bahreïn, au Qatar, dans les Émirats, donc il y a, et même je crois en Arabie Saoudite, donc il y a une volonté iranienne de régionaliser le conflit. Ce n'est pas une surprise, les dirigeants iraniens l'ont toujours dit. Si vous nous attaquez, nous on mettra le cœur du golfe Persique à feu et à sang, et donc ça comprendra évidemment des frappes probablement sur des pétroliers. L'Iran va essayer de fermer le détroit d'Ormuz parce que par ce détroit passe environ 30% de l'approvisionnement en pétrole des pays occidentaux, donc c'est un des scénarios prévus par le régime. Évidemment, les Américains sont au courant et vont essayer d'empêcher la fermeture de ce détroit d'Ormuz si important pour la navigation marchande en particulier. Donc, on a une régionalisation du conflit. Alors, ne sont pas encore intervenus ni le Hezbollah, ni les milices irakiennes. Est-ce qu'elles le feront? Là, on est encore au niveau des points d'interrogation. Je rappelle juste que l'Iran a trois piliers pour sa défense. L'un, c'est son programme balistique. Alors, celui-ci va être sans doute sous les feux des tirs des Américains et des Israéliens. Le deuxième, ce sont ses alliés, qui sont, comme on l'a dit, le Hezbollah libanais, les milices irakiennes et quelques autres. Et en dernier lieu, son troisième pilier aussi, c'était l'enrichissement de l'uranium, qui faisait l'objet donc des négociations à Genève. Et sur ces trois points, ces trois piliers, eh bien, l'Iran va essayer évidemment d'en conserver le plus important d'entre eux, à mon sens, c'est le programme balistique qui est vraiment sa première ligne de défense. C'est grâce à ça qu'il peut répondre aux attaques israélo-américaines, frapper dans le lointain, frapper Israël par exemple. Et cet arsenal balistique, il n'est pas léger, il est lourd, hein, avec notamment des missiles supersoniques peuvent atteindre la vitesse de Mach 5, c'est-à-dire 5 fois la vitesse du son, ce qui est considérable. On ne sait pas exactement combien ils en ont, mais c'est une arme absolument redoutable. Et là, le système israélien ne sera pas forcément compétent pour pouvoir stopper ces missiles.
D'après vous, Jean-Pierre Perrin, pourquoi Téhéran n'a-t-il pas accepté les conditions des États-Unis? Pourquoi les Iraniens préfèrent-ils la guerre au renoncement?
Alors, c'est plus qu'un renoncement, c'est une capitulation que les Américains voulaient. Hein, c'est-à-dire, ils voulaient dans un premier temps que l'Iran n'enrichisse plus. Or, c'est une des lignes de défense du régime d'avoir un programme nucléaire consistant. Donc, il voulait ensuite s'intéresser de très près au programme balistique iranien, ne plus permettre à ce qu'il ait des missiles de longue portée, c'est-à-dire des missiles dépassant les 500 km, donc pouvant atteindre Riyad ou surtout Tel Aviv. Donc, cette capitulation, il n'était pas question pour les Iraniens de l'accepter. Les Occidentaux pensent toujours que si on fait beaucoup de pression sur l'Iran, si on lui impose beaucoup de sanctions, si on met hors la loi un nombre important de ses responsables sur la liste des organisations antiterroristes, les passes d'Aran, ça va le faire céder officiellement ou clandestinement ou secrètement, mais pas du tout. La logique iranienne, ce n'est pas jamais d'accepter la capitulation, sinon c'est le cœur du système qui s'effondre. Le système iranien a été fondé sur la résistance, sur al-Mukawamat, comment dire en arabe, cette résistance est importante parce que c'est le cœur de l'idéologie du régime, c'est-à-dire de préférer la mort à l'humiliation. Il y a des affiches, notamment à Téhéran, où on voit le guide Ali Khamenei, donc, avec des deux citations. Une citation attribuée à l'imam Hussein Ben Ali, donc le troisième imam du chiite, qui dit que la mort est préférable à l'humiliation. Et dessous, on a une autre citation du guide suprême lui-même qui dit « La mort n'est pas importante, l'Iran même n'est pas important, seule la religion, seul l'islam est important. » Et donc, ça sous-entend qu'il faut être toujours prêt au sacrifice. Et lui-même, dans plusieurs déclarations, a fait savoir qu'il était prêt à être lui-même un martyr. Et donc, finir en martyr, on ne peut pas exclure que ça soit dans sa tête actuellement.
Alors, pour finir, quels canaux existent encore pour désamorcer, ou bien la dynamique militaire a-t-elle pris le dessus, rendant toute désescalade très difficile à court terme?
La désescalade pour le moment n'est pas en vue, puisque c'est une opération qui promet d'être longue du fait de l'importance de l'armada déployée par les États-Unis. Les Nations Unies, on sait que Donald Trump n'en veut pas, ne les aime pas, même s'il a fait un geste ces dernières semaines. Il a donné notamment un chèque, une somme assez importante aux Nations Unies, qui en ont bien besoin. Mais en tout cas, il veut d'ailleurs se substituer aux Nations Unies avec son Conseil de la paix. Non, il ne veut pas des Nations Unies qui sont à ses yeux totalement inopérantes. Ça sera forcément un rapport de force qui s'est engagé. Et puis, alors, ce rapport de force, est-ce qu'il peut évoluer vers une sorte de médiation? Peut-être s'il trouve des interlocuteurs à l'intérieur du régime. Mais là, ça n'est pas du tout évident. Jusqu'à présent, le régime affiche une unité de façade très forte. On ne voit même pas les réformistes faire vraiment diversion. Ils sont certains ont condamné la répression des manifestations, certes, et ont même été en prison, certes, mais sur l'unité, quant à ce que perdure la République islamique, alors ils sont tous d'accord. Là, on est quand même à un régime qui affiche une certaine solidité, alors fût-elle de façade. Pour le moment, en tout cas, on ne sent pas de faille profonde à l'intérieur du régime, même si sans doute il s'en cache dans l'ombre.
Merci Jean-Pierre Perrin d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, merci à vous.
Je rappelle que vous êtes écrivain, grand reporter, spécialiste du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de l'Iran. Merci à vous qui nous suivez sur Radio-Orient. Ce grand angle est à réécouter sur notre site et Spotify. Excellente suite de programme.
C'était Grand Angle.